Voici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI en ce début d'année 2018, alors que l'Amérique de Donald Trump semble opter pour l'isolationnisme. Eh bien, l'Europe, elle, est gagnée par la fièvre des négociations commerciales. Et nous recevons aujourd'hui pour inviter un ancien commissaire européen chargé du commerce, Pascal Lamy. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pascal Lamy. Alors depuis 2013, vous êtes le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Vous êtes membre de nombreux clubs pro-européens. On va citer la Fondation Transatlantique, les Amis de l'Europe. Votre mandat à la tête de l'Organisation Mondiale du Commerce, que vous avez dirigé de 2005 à 2013, vous a rendu célèbre dans le monde entier. Et c'est une notoriété eh bien, qui doit sans doute faciliter votre nouvelle mission. Promouvoir la candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025.
Alors, on le disait, vous êtes l'ancien patron de l'OMC. Est-ce que cette organisation va survivre à la montée du protectionnisme et à l'opposition, surtout, d'un certain Donald Trump ?
Bonne question. Et je ne suis pas certain de la réponse. Il est évidemment très important que le commerce mondial reste régulé par une organisation multilatérale. Mais vous avez raison, il y a une menace, de même d'ailleurs qu'il y a une menace sur le commerce mondial, qui vient du tournant protectionniste américain, qui est très net et qui est le tournant de Trump. Même s'il n'a pas mis un droit de douane de 45% sur les exportations chinoises, ce qu'il disait pendant sa campagne, il y a un tournant protectionniste. À mon avis, on va voir encore davantage de cela dans les semaines qui viennent. Et donc, il y a des raisons d'être inquiet. C'est la seule, d'ailleurs, c'est la seule inquiétude qu'il y a aujourd'hui. L'économie mondiale va plutôt bien, et c'est ce qu'on pense pour les années qui viennent. Du coup, le commerce mondial va plutôt bien. Mais Trump, lui, disons, en gros, lui, il va pas bien.
Alors Trump, il envisage carrément parfois de quitter l'OMC. Hein, c'est un peu ce qu'on a ressenti lors de la dernière réunion. Par ailleurs, il veut désengager son pays de multiples accords commerciaux. Et pendant ce temps, l'Europe, elle fait exactement l'inverse. Hein. Elle met les bouchées doubles pour signer au plus vite des accords de libre-échange. On a eu récemment avec le Canada, la Corée du Sud, le Singapour, le Japon. Et puis, il y a aussi beaucoup de projets avec le Mexique, le Mercosur, le Chili. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, profiter un peu de cette brèche et de cet appel d'air ?
La réalité, c'est que ces négociations commerciales bilatérales avec le Canada, comme vous l'avez dit, avec le Japon, avec la Corée, avec le Mercosur, qui est le bloc commercial de l'Amérique du Sud, sont commencées depuis très longtemps. La plus grosse de celles qui est dans les tuyaux et qui est quasiment terminée avec le Japon, qui est quand même une grande puissance économique mondiale, avait démarré bien avant les foucades de M. Trump.
Mais est-ce que ces foucades ne vont pas accélérer, encourager ces pays ?
Vous avez raison. Les Européens peuvent, dans ces conditions, apparaître comme les tenants d'une politique commerciale ouverte et essayer avec les Chinois. C'est un peu ce que Emmanuel Macron a essayé de faire dans son déplacement en Chine. Mais aussi les Brésiliens, les Africains, les Indonésiens, les Indiens sont toujours un peu à part, de constituer au fond une option d'un système qui resterait multilatéral, moins les Américains.
Oui, mais alors, justement,
on peut peut-être tenter cette formule.
Oui, mais posons la question plus clairement. Par exemple, dans le cas du fameux CETA avec le Canada, hein, accord transatlantique, il y a eu quand même levée de boucliers, en particulier des agriculteurs, du public général sur la question de la baisse des normes environnementales et d'autres questions aussi un peu stratégiques. Est-ce qu'on n'est pas en train, avec justement ces négociations commerciales mal digérées par les citoyens, de nourrir l'euroscepticisme ?
À la fin du fin, je ne crois pas. Mais évidemment, comme toute négociation commerciale et comme tout accord commercial, c'est donnant-donnant. Vous donnez, vous prenez. Ce que vous donnez d'accès au marché chez vous, ça ne plaît pas forcément aux producteurs de chez vous qui sont en concurrence. Et ce que vous gagnez sur le marché canadien, ça ne plaît pas forcément aux producteurs canadiens qui sont en concurrence avec des produits européens. Donc c'est toujours comme ça.
Mais on a les normes les plus hautes en Europe, hein, notamment sur l'environnement.
Oui, enfin,
et sur la sécurité sanitaire, peut-être.
l'Europe et le bloc nord-américain sont à peu près équivalents en matière de précaution. Si vous prenez la santé humaine, c'est à peu près pareil. Si vous prenez, c'est vrai, les hormones ou un certain nombre d'ingrédients d'alimentation animale, ils sont moins précautionneux que nous. Si vous prenez les filtres des voitures, ils sont sensiblement plus précautionneux que nous, comme on l'a vu avec l'affaire Volkswagen. Hein. Donc c'est pas tout gris, tout blanc. Ce qui est vrai, et ce qui reste vrai, c'est que l'ouverture des échanges, ça marche parce que ça fait mal, et ça fait mal parce que ça marche. Et il y en a à qui ça fait mal, et c'est parfaitement naturel, et c'est là que des systèmes comme ce que nous avons en Europe, c'est-à-dire des filets de sécurité sociale, d'éducation, de politique de l'emploi, qui sont plus sophistiqués, plus riches, plus substantiels que sur le continent nord-américain, prennent toute leur ampleur. Autrement dit, il faut, de mon point de vue, continuer à inventer dans l'ouverture, mais effectivement, dans un certain nombre de cas, faire plus attention aux dégâts qu'elle peut faire, parce que nous savons que dans certains cas, ça peut faire des dégâts.
Alors, vous le dites tout à fait, ça marche, ça peut faire des gagnants, à condition que les deux parties respectent bien la règle du jeu. D'ailleurs, s'ils signent un accord, c'est pour se mettre d'accord sur cette règle. Mais on voit qu'avec certains partenaires, c'est pas si évident, notamment la Chine, hein, ce poids lourd incontournable. Vous l'avez dit, le président Macron était en Chine, et il a essayé d'avoir un peu des exigences, de porter les exigences européennes en demandant plus de réciprocité, parce que c'est vrai que cet investisseur est assez agressif, parfois, et la Chine n'est pas toujours très ouverte aux investissements étrangers.
Absolument.
Alors, comment est-ce que l'Europe doit se comporter ? Elle a essayé de faire un accord avec les États-Unis pour imposer sa norme mondiale face à la Chine. Ça n'a pas marché, ça a été retoqué. Mais c'est difficile face à Pékin. Comment s'y prendre ? Il faut être ferme, il faut, comme l'a été un peu Bruno Le Maire dans son discours.
Je crois que, disons, les Chinois respectent les disciplines multilatérales qu'ils ont souscrites. Et d'ailleurs, s'ils ne les respectaient pas, on leur colle un procès à l'OMC, ils vont perdre, c'est déjà arrivé, d'ailleurs, comme toutes les puissances commerciales. Bon. La question, c'est que ces disciplines multilatérales ne couvrent pas tout. Par exemple, les Chinois ne sont pas obligés, par les règles de l'OMC, à ouvrir leur marché public à la concurrence étrangère. Ça, c'est un grand trou. Nous avons ouvert nos marchés publics, essentiellement à la concurrence européenne, mais dans une certaine mesure, alors on le fait avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Australie, on ne le fait pas avec la Chine, mais le fait que la Chine n'ait pas à ouvrir ses marchés publics à la concurrence est une erreur. Le problème, c'est que pour arriver à faire entrer les Chinois dans cette discipline, il faut leur offrir quelque chose. En matière d'investissement, vous avez tout à fait raison, les règles qui s'appliquent aux investissements étrangers en Europe sont plus souples, plus ouvertes que les règles qui s'appliquent en Chine aux investissements européens. Et ça, c'est ce que Macron a dit. Et là, il n'y a pas photo. On est effectivement dans de la réciprocité. On n'a pas, à mon avis, de très bonnes raisons de demander la réciprocité à des pays africains. On a de très bonnes raisons de demander la réciprocité, en tout cas en matière d'investissement, aux Chinois. Alors, il faut faire un peu attention aussi à cette question de réciprocité, parce qu'il y a des domaines dans lesquels la réciprocité, ça ne serait pas forcément une bonne chose pour nous.
Si vous pensez à quoi ?
On a une protection agricole, à la fois par des subventions et des droits de douane en Europe. Si on nous demande la réciprocité avec les poulets brésiliens, on ne la donnera pas. Cette notion de juste échange, qui est très séduisante sur le plan intellectuel, un échange est juste quand les deux parties à l'échange considèrent qu'il est juste. Mais on ne va pas, entre vous et moi, nous n'aurons de juste échange que si on est tous les deux d'accord sur le fait que c'est juste. Si c'est moi qui dis mon échange avec vous est juste et que vous n'êtes pas d'accord, ce ne sera pas juste.
Là, on referme cette page commerciale, si vous voulez bien, parce que dans l'actualité cette semaine, il y a aussi l'accord entre les chrétiens démocrates d'Angela Merkel, les sociaux-démocrates. Ils se sont entendus pour engager la négociation d'un contrat futur de coalition. Le point sur le résultat de ces négociations, tout de suite avec Fanny Allard.
Après plus de 3 mois d'impasse politique, Angela Merkel et Martin Schulz ouvrent la voie au maintien de leur coalition. Les deux leaders sont parvenus à un compromis qui pourrait permettre à la chancelière allemande d'entamer un 4e mandat à la tête de l'Allemagne.
Ce document sur lequel nous avons travaillé et que nous avons conçu ensemble, nous l'avons préparé pour créer les conditions qui nous permettront dans les 10 ou 15 années à venir de traiter les questions d'investissement, de société et d'éducation de manière efficace. Dans ce document de 28 pages, les propositions des conservateurs semblent prédominer. En matière de politique migratoire, la CSU-CDU a obtenu une très stricte limitation du regroupement familial pour les réfugiés, bénéficiant d'un titre de séjour d'un an renouvelable. Le plafonnement du nombre de demandeurs d'asile susceptibles d'être accueillis chaque année en Allemagne figurerait aussi dans l'accord. De son côté, le SPD n'a pas réussi à imposer une augmentation de la fiscalité sur les plus hauts revenus, mais il aurait obtenu des garanties dans le domaine social, notamment sur le maintien du niveau des retraites. Le leader du SPD, Martin Schulz, s'est félicité de ces avancées.
Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour discuter et travailler ensemble. Les sociodémocrates ont contribué à faire en sorte que notre société ne se morcelle pas. C'est ainsi que l'on rénove le pays, en maintenant sa cohésion.
Ce n'est pourtant qu'une étape. Le 21 janvier, les sociodémocrates décideront s'ils valident ou non cet accord lors d'un congrès extraordinaire. Les discussions s'annoncent compliquées. Une partie de la base du SPD s'oppose au principe de grande coalition. Dans le meilleur des cas, un nouvel exécutif ne sera en place qu'en mars, alors que l'Europe s'impatiente.
On le voit, Angela Merkel n'est toujours pas sortie d'affaires. Du coup, est-ce qu'elle est le partenaire idéal pour le président Macron qui veut réformer l'Europe ?
C'est une question dont je suis sûr que Emmanuel Macron la pose souvent. Angela Merkel, ils ont un très très bon rapport tous les deux, ils ont des contacts très fréquents, mais il est vrai que l'Europe et la France ont besoin d'un gouvernement allemand stable, fort.
Pas minoritaire donc.
Pour un gouvernement minoritaire, même si c'était avec le soutien du SPD au Parlement, c'est forcément perçu comme moins fort qu'un gouvernement de coalition. Et nous avons besoin d'une Allemagne forte, enfin d'une Merkel forte, parce que ce sera quand même elle la chancelière à peu près dans tous les cas de figure, sauf s'il y avait de nouvelles élections avec des résultats imprévisibles, pour les temps qui viennent. Il y a des élections européennes en juin 2019. D'ici là, la France et son président veulent des avancées européennes. Nous savons que des avancées européennes ne sont pas possibles si les Allemands ne sont pas à bord pour ces avancées. Et donc, c'est effectivement... se joue à Berlin, dans ces discussions de coalition, une question qui est très importante pour la France et pour la suite des opérations dans les années qui viennent.
Alors, dans cette Europe que le président Macron aimerait réformer, il y a aussi pas mal de dissensions avec des pays de l'Est, la Pologne notamment, qui vient de remanier son gouvernement, dirigé par le parti ultra-conservateur Droit et Justice. Et, ce remaniement intègre des ministres plus euro-compatibles, car la Pologne pourrait être sévèrement sanctionnée par l'Union européenne pour sa mainmise sur la justice. Est-ce que vous êtes un partisan de la fermeté ?
Oui, et d'ailleurs je crois l'avoir démontré en signant avec un certain nombre d'autres anciens commissaires une pétition dans le cas hongrois, d'ailleurs, pas encore polonais, qui a fait pas mal de bruit, et dont la substance est assez simple. L'Union européenne, c'est... il y a union là-dedans, et l'union, elle se fait à la fois avec des principes, des méthodes, de la solidarité... Et dans les principes de l'Union européenne, il y a une charte politique qui est que la justice est indépendante, que la presse est indépendante, et si la justice n'est pas indépendante et si la presse n'est pas indépendante, vous n'avez pas à Bruxelles à dire « Ah ben moi j'ai droit à tant du budget pour ma politique régionale, pour
ma politique régionale. » Et au droit de vote d'ailleurs, parce que c'est un peu l'arme atomique, alors les sanctions ça marche ?
Il n'est pas normal... Et je comprends très bien que des gouvernements comme le gouvernement allemand ou français ou italien ou espagnol qui ont des comptes à rendre à leurs opinions, quand on va leur dire les Polonais s'assoient sur l'indépendance de la justice ou les Hongrois s'assoient sur la liberté des médias, et moi, en tant que contribuable européen, je vais continuer à les aider. Ça n'est pas tenable. Et cette question va inévitablement se poser parce que, quel que soit ce qu'on pense de la relance de tel ou tel projet européen, il y a un sujet qui arrive de toute façon, qui est la programmation financière européenne pour les prochaines années. La programmation actuelle se termine en 2020. La Commission va mettre sur la table une proposition au mois de mai. Et le débat financier, budgétaire, combien pour qui, combien pour la politique agricole, combien pour la recherche. Et je suis de ceux qui plaident pour doubler le programme européen de recherche parce que ça marche très très bien et que c'est un sujet essentiel pour l'avenir. Tout ça, de toute façon, cette question polonaise ou hongroise, elle va inévitablement arriver sous l'angle budgétaire.
Il y a aussi la question autrichienne maintenant, avec un nouveau ministre de l'Intérieur qui fait partie du parti d'extrême droite, le FPE, qui a suscité la polémique en proposant de cantonner les demandeurs d'asile de façon concentrée, ce qui rappelait quand même un peu les camps de concentration.
Oui, c'est inquiétant. Mais on voit ça partout en Europe, y compris d'ailleurs chez nous en France. Le paysage est en train de changer. À gauche, à droite, au centre. La France est un peu un cas un peu particulier, parce que l'élection d'Emmanuel Macron a surpris tout le monde, tant elle rebat les cartes. Mais je voulais, à droite, la grande question, c'est est-ce que c'est la droite qui va manger l'extrême droite, ou est-ce que c'est l'extrême droite qui va manger la droite ? Au fond, il y a ces deux options, et dans le cas autrichien, on est en droit de se demander si c'est pas l'extrême droite qui est en train de manger la droite.
C'est une crainte qu'on peut avoir à travers toute l'Europe, parce qu'on voit tous les gouvernements gênés par cette question des migrations.
Oui, et par exemple en Allemagne, c'est clair que la droite ne va pas se laisser manger par l'extrême droite.
D'accord.
Donc si vous voulez, il y a des cas où la situation est nette. L'AFD en Allemagne n'a aucune chance de pénétrer la CSU ou la CDU. En Italie, on a vu que par moment, y compris avec la Ligue du Nord, les frontières étaient poreuses. Et d'ailleurs, le mouvement 5 étoiles, est-ce qu'il est de droite, de gauche, du Nord, du Sud, on n'est pas très sûr. Donc ça dépend des pays, mais d'une manière générale, il est vrai que la droite de la droite a fait des progrès au cours des 20 dernières années, et que, de ce point de vue-là, et la droite centre-droit et la gauche centre-gauche ont un problème qu'il faut régler, parce que le monde a changé, que les attitudes des gens, leurs attentes... Il est vrai aussi qu'entre-temps, la globalisation a produit beaucoup de bénéfices, mais elle a aussi laissé pas mal de gens de côté. Donc ces choses-là sont à remettre, au fond, sur le métier.
Pascal Ami, merci. Très vite, un mot de cette exposition universelle dont vous êtes un peu le promoteur dans le monde, une exposition que la France pourrait organiser en 2025. Est-ce que c'est encore bien utile, une exposition universelle pour le rayonnement d'un pays, à quoi ça sert au fond ?
Ça sert à constituer un moment où les peuples se retrouvent, se parlent. Ça servirait accessoirement à créer 0,4 points de croissance en France, à peu près 150 000 emplois pérennes, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis ça projetterait la France comme une puissance qui pense à l'avenir et pas seulement au passé. On a quelques titres à organiser une exposition universelle. On a quand même fait des choses assez brillantes au 19e, hein, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, le Grand Palais. On n'en a pas fait depuis. Et donc l'idée, y compris du président de la République, c'est que nous devons, au fond, rester fidèles à cette tradition qui consiste à prendre des initiatives mondiales et puis nous projeter. On a prévu, si nous sommes retenus et si nous gagnons contre les Japonais, les Russes et les Azéris, d'installer cette exposition à Paris-Saclay pour la mettre en phase avec ce grand cluster scientifique
avec
qui est en voie de
constitution. Avec le très grand Paris.
Avec le très grand Paris. Et l'idée est que les pavillons, ensuite, soient recyclés en résidence universitaire du XXIe siècle, un peu comme ça a été le cas à Paris dans les temps anciens. Et donc, c'est une exposition qui, au fond, se retrouverait sous une forme très utile, à la différence de pas mal d'autres expositions dans le passé.
Merci à vous d'avoir été notre invité, Pascal Lamy, aujourd'hui.
Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, votre point sur l'actualité sur Radio France Internationale ou bien sur France 24.